Mais moi, Seigneur, j'aimerais te remercier pour ta présence. C'est vrai que je vais parler, dire des mots, mais si ta présence n'est pas là, si ce n'est pas toi qui rends ces mots vivants par ton esprit, si ces mots ne parlent pas de toi, ça ne sert pas à grand-chose. Mais tu as promis ta présence, on l'a proclamé plusieurs fois, et j'aimerais te remercier parce que tu es là, à côté de moi, à côté de chacun de nous, pour que cette parole, elle porte des fruits, elle soit vivante. Seigneur, on compte sur toi. Merci. Amen. Le 23 décembre, on doit parler de Noël. C'est pas toujours très facile parce qu'il y a Noël vu de l'extérieur, tel que nous présente l'évangile de Luc. Alors, la crèche, l'hôtellerie, les bergers, les mages. On peut même rajouter le bœuf, l'âne, le sapin, les cadeaux. Noël, quoi. C'est un peu la surface. Et c'est le récit biblique, c'est vraiment des fêtes qui se sont passées. J'aimerais un peu voir ce matin, mais qu'est-ce qu'il y a dessous? Il y a quelque temps, je vous avais fait une prédication sur les épreuves qu'on peut vivre, mais qu'est-ce qu'il y a dessous? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a sous le capot de Noël. Rien de très extraordinaire, vous savez toutes ces choses, mais je crois que c'est important d'y revenir, parce que dans des choses qui sont si communes, finalement, on ne les entend plus. Jean, lui, contrairement à Luc, il va directement sous le capot. Il va nous parler de Noël, mais d'une autre manière. J'aimerais lire quelques versets dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Verset 14. Et la parole, cette parole qui est Dieu, qui est auprès de Dieu, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Un peu plus loin, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et verset 29, un peu plus loin alors. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il n'est pas dit que dans ce passage que Jésus est né. Il est dit qu'il est fait chair. Quand on est, quand vous et moi nous sommes nés, nous n'existions pas et tout à coup nous sommes devenus des personnes ici qui vont exister d'ailleurs éternellement. Mais on a un commencement. Jésus, il n'est pas né, il a été fait chair. Ce n'est pas une nouvelle personne, c'est Dieu qui se manifeste en chair. On a de la peine à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu, créateur de toutes choses, extérieur finalement, ou au-dessus de sa création, entre dans sa création. Je sais pas, c'est un peu comme si l'auteur d'un livre entrait dans son propre livre, entrait vraiment dans son histoire. C'est comme si, par exemple, Madame Rowling entrait dans Harry Potter. Mais on n'arrive pas à comprendre ça. Mais Dieu entre dans sa création, il devient part de sa création. C'est quand même assez étonnant. La question à laquelle j'ai réfléchi et j'aimerais partager, c'est pourquoi? Pourquoi le Fils de Dieu s'est incarné, a été fait chair. Il y a trois points que j'ai envie d'aborder, et on pourra en trouver beaucoup d'autres, mais trois qui m'ont retenu. Premier, c'est le verset qu'on a lu. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il y a un problème dans ce monde, on en est tous conscients. Ce qu'on vit dans ce monde n'est pas très agréable souvent. Il y a des choses difficiles. Le péché est là. Tout ceci a fait du désordre. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu, il veut autre chose. Il veut un monde parfait. Mais il faut ôter le péché du monde, ôter tout ce qui est obstacle. Et pour cela, Jésus a dû s'incarner. Pourquoi? Parce que le responsable du péché dans lequel on vit, c'est les êtres humains. C'est les hommes qui ont fait de ce monde ce qu'il est négativement. Pour ôter le péché du monde, pour que des hommes qui sont pécheurs ne soient plus pécheurs, pour qu'un monde qui soit gâché par le péché ne soit plus gâché, eh bien, comme c'est l'homme qui est responsable de tout cela, eh bien, il faut que un homme répare tout cela. Et ça nous est impossible. Mais pour cela, Jésus est venu. Dieu est venu dans la forme d'un homme pour que cet homme puisse manifester finalement la justice de Dieu. Il est seul qui a pu rétablir cette justice. Il y a un passage, je ne vais pas vous le dire en entier, c'est un Romains 5 qui dit que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et il y a un peu plus loin, le don de la grâce, le salut vient d'un seul homme, Jésus-Christ. Comme un homme avait causé la chute, il faut un homme pour corriger, pour résoudre cette situation. Un homme qui n'est pas pris par tout ce péché. Et comment un homme peut résoudre ce problème? En Romains 6, il est dit, le salaire du péché, la conséquence du péché, ce que le péché coûte, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Péché implique mort. Parce qu'il y a le péché, il y a la mort. Alors, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, celui qui s'offre en sacrifice, celui qui se donne, celui qui meurt. Le Fils de l'homme, dit Marc, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Vous connaissez toutes ces choses, je ne vais pas insister, mais réalisez qu'il faut que Jésus s'incarne et devienne un homme, et un homme qui meurt pour porter les conséquences du péché. Il s'est incarné, et c'est central, Jésus s'est incarné, Dieu le Fils s'est incarné dans l'homme pour pouvoir mourir. Des raisons de l'incarnation, il faut que ce soit un homme qui meurt et il faut qu'il puisse mourir. Dieu ne peut pas mourir, un homme peut mourir. C'est la première raison, la raison basique, première, celle auquel on pense tout de suite, pour laquelle Jésus est venu comme homme. C'est pour mourir, pour porter le jugement, pour que tout dans ce monde soit jugé, manifesté, ôté, détruit, jugé jusqu'au bout. Et il y a des tas de conséquences à cela. Je ne vais pas insister, mais une autre question, une autre raison. Ce n'est pas suffisant de corriger, ce n'est pas suffisant de régler la question, de justifier, de dire Dieu est juste, il condamne le péché, ça a été manifesté en Jésus. Il y a besoin d'autre chose. Dieu, il ne veut pas simplement régler un problème, il veut nous aimer. Et la deuxième raison pour la venue de Jésus en tant qu'homme, c'est qu'on puisse le connaître. Le verset 18. Je retrouve mon verset. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus est venu comme homme pour qu'on le connaisse. Ce qui nous frustre souvent, franchement, est-ce que Dieu existe vraiment? On ne le voit pas. Il n'est pas là. Personne ne l'a vu. Est-ce que ce n'est pas des illusions qu'il y a dans notre tête? Comment est Dieu? Qui il est? C'est un peu frustrant. Des fois, on aimerait, comme dans l'Ancien Testament, on aimerait que, comme pour Abraham, Dieu vienne et nous parle. On dirait, ok, là on a. Ben, il n'est pas dit qu'Abraham a connu Dieu parce que Dieu lui a parlé. Il est dit qu'Abraham a connu Dieu par la foi. Des visions de Dieu, ce n'est pas une vraie connaissance de Dieu, c'est par la foi. Il y a de la distance. Dieu est tellement étrange, tellement plus grand, tellement différent de nous. Comment peut-on connaître cet esprit qui a créé toutes choses et qui remplit l'univers, qui est tellement au-delà de nous? Ben, pour qu'on puisse le comprendre, pour qu'on puisse saisir, eh bien, il est devenu homme. C'est pour ça qu'il est venu, pour ça que la parole a été faite chair. C'est pour qu'on le voie, pour qu'on le touche. Il s'est fait chair pour qu'on le connaisse. Et c'est quand même assez étonnant. On peut connaître Dieu en regardant un homme. Et ça, par exemple, Jean, l'apôtre, il a été émerveillé. Qu'est-ce qu'il dit au début de son épître? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La vie était manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Il l'a vu, il a touché, il a entendu et il s'émerveille de cela. Quand on voyait Jésus, quand on touchait Jésus, quand on parlait avec Jésus, c'est un peu comme si on parlait à Dieu, parce qu'il était Dieu. Il est le reflet exact de ce qu'est Dieu dans l'humanité, le reflet exact et complet de ce qu'est Dieu dans le monde pécheur dans lequel on est. Quand on voyait Jésus, on voyait le Père, il l'a dit. Jésus lui dit, dans Jean 14, « Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Quand on voyait Jésus, on voyait le Père. Ou Hébreux 1, « Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Il est le reflet parfait de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. C'est ce Dieu immense, il met une empreinte dans la création, en venant ici-bas. Mais c'est exactement ce que Dieu est. Quand on voit Jésus dans sa marche tous les jours, dans ce qu'il était, eh bien, on voyait Dieu. Chaque attitude de Jésus, chaque parole de Jésus était exactement une expression de ce que Dieu est. Quoi que fasse Jésus, eh bien, c'était Dieu qui le faisait. Quoi que fasse Jésus, ça avait la couleur de Dieu, l'odeur de Dieu, la lumière de Dieu. Dans ce monde, dans les petites choses de la vie courante, eh bien, on voyait Dieu. Et on peut dire, mais ces hommes, ils ont vu Dieu dans tous ses caractères reflétés dans ce monde. On aimerait bien des fois se dire, on me regarde, et puis tout ce que je fais finalement parle de Dieu, est un reflet de ce qu'est Dieu. Ben, dans Jésus, il y avait ça, on le voyait vraiment. Je crois qu'il s'est incarné, Dieu, en Jésus, pour cela. Il avait envie qu'on le connaisse. Si vous lisez le chapitre 17 de Jean, c'est exactement ça. Il n'arrête pas, Jésus, de dire, il est là pour révéler, pour dire, pour montrer qui est Dieu. Les hommes que tu m'as donnés, je t'ai fait connaître à eux. Voyez, c'est vraiment son désir. Quand Jésus était là, il voulait que les autres, nous, le voient et voient Dieu. Mais vous direz, moi, je ne vois pas. Moi, je ne le vois pas, Dieu. Mais eux l'ont vu. Et ils sont des témoins. Les apôtres, les auteurs des évangiles, mais aussi Paul, ils ont vu Dieu. Vous l'avez un peu particulièrement, mais quand même, il y a une vision toute particulière. Ces hommes ont été choisis par Dieu pour être des témoins. Ben vous savez, dans tout ce qu'on connaît, bon, énormément de choses, on les connaît simplement par témoignage. Il y a tellement de choses qu'on ignore, on croit connaître, mais simplement parce qu'on croit d'autres personnes qui ont vu. Je ne sais pas, vous croyez que l'univers est immense parce qu'on vous l'a dit. Des gens étudiez ça et vous faites confiance à ces gens que l'univers est aussi grand parce que des gens plus sages que nous le voient. La plupart des choses qu'on connaît, on les connaît par témoignage. On vous l'a dit. Comme vous étiez enfant, vous ne saviez rien au début. Et petit à petit, votre image du monde s'est construite, vous avez appris des choses. Très peu ont été apprises par l'expérience. La plupart des choses qu'on connaît, on les a simplement apprises par le témoignage d'autres personnes. C'est comme ça que ça se passe. Eh bien, le témoignage qu'on a dans la Bible, dans la parole de Dieu, eh bien, elle est un témoignage aussi crédible que les autres témoignages que l'on connaît, et même beaucoup plus crédible. Il y a des démonstrations intérieures de cette vérité-là. Parce que ces passages disent aussi que quand Jésus est venu, il y en a certains qui l'ont reçu. Beaucoup ne l'ont pas reçu. Le prologue de Jean qu'on a lu le dit. Il est venu dans ce monde, mais les siens n'ont pas reçu. Pourtant, ils étaient une évidence qu'il était Dieu. Il montrait complètement Dieu. Mais les hommes sont pécheurs, on est aveugles finalement. Et c'est pour ça que, pour voir vraiment ça, pour croire Dieu, pour croire ses témoignages, Il y a une seule chose qui est indispensable, c'est une conversion, c'est le travail de Dieu, c'est la vie de Dieu mise en nous, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Sans cela, c'est des témoignages, on les croira difficilement ou ça restera en surface. Pour voir vraiment Dieu en Jésus-Christ, mes amis, il faut le cadeau de la nouvelle naissance, il faut le cadeau du Saint-Esprit qui ouvre nos yeux. On voit la réalité dans la parole, on croit ce que ces hommes ont témoigné, eux ont vu. Il y en avait d'autres à leur époque qui ne voyaient pas, mais eux voyaient. Pourquoi ? Mais parce que Dieu leur ouvrait les yeux. Et on a besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Et loué soit Dieu, il a ouvert nos yeux à la plupart d'entre nous, j'espère à chacun d'entre nous, pour qu'on sache ces choses. Mais on connaît vraiment Dieu que en voyant Jésus. Quand ça reste flou. Troisième point. Jésus est venu dans ce monde comme un homme incarné pour qu'on voit Dieu en lui. Il est aussi venu dans ce monde pour nous connaître. Ce n'est pas seulement lui qui est venu pour nous montrer Dieu, mais il est venu pour nous voir, pour nous connaître. C'est l'Épître aux Hébreux qui le dit. Je vous lis quelques passages essentiellement d'Hébreux 2. C'est pourquoi le Fils n'a pas honte de les appeler ses frères. Un peu plus loin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Verset 14. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même aussi l'a partagée de façon similaire. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Un peu compliqué, mais Jésus est venu dans ce monde pour nous connaître, pour vivre ce qu'on est, pour être tenté comme on est tenté, pour souffrir comme on souffre, pour saisir, comprendre qui on est. Il s'est approché de nous pour pouvoir nous appeler ses frères, voyez, un frère, on comprend, on est ensemble, on se connaît. Eh bien, c'est ce que Jésus a voulu. Il n'a pas voulu simplement qu'on le connaisse, mais il a voulu nous connaître. Je vous disais tout à l'heure, on ne connaît finalement Dieu que parce que la marche de Jésus dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans cette incarnation pour connaître les humains? Moi, je trouve que c'est assez remarquable. On voit ce Jésus qui vient vers des gens. On voit ce Jésus qui dit, par exemple, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Il avait un amour pour ces trois individus. On a l'impression que Jésus aime tout le monde. Non, il aimait Marthe, Marie, Lazare. Un peu plus loin, dans ce même récit où ça parle de ces trois personnes, Lazare est mort et on voit Jésus qui pleure. Il pleure à cause de la souffrance de ses amis, de ces gens qu'il aime. On voit Jésus qui aime ses disciples, mais il ne les aime pas tous de la même manière. Il les connaît, il parle à Pierre, il sait comment Pierre fonctionne, il l'aide spécifiquement. Jésus, il ne nous aime pas, il n'aime pas. Et Dieu n'aime pas tout le monde globalement d'une façon homogène. Il aime chacun de nous spécifiquement. Il n'aime pas Marie comme il n'aimait pas Marthe. Il n'aime pas Marthe comme il aime Lazare. Il n'aime pas Lazare comme il aime Yann. Il n'aime pas Yann comme il aime Ilse. Il nous aime particulièrement, chacun pour soi. Et c'est différent. Il est venu dans ce monde et il a appris, Jésus, à apprécier les uns et les autres. À apprécier ce qu'est chacun. Voyez, on est chacun des personnes créées par Dieu, mais on n'est pas tous simplement créés par Dieu. On est tous des êtres, des hommes, des femmes, des enfants qui progressent, qui grandissent. Dieu nous a donné la vie, et on est là, et puis on agit. Et ce qu'on fait, ce n'est pas simplement Dieu qui nous pilote, c'est nous comme personnes qui faisons ces choses. Et Dieu apprécie ces choses qu'on fait comme personne. Il n'a pas le sentiment, Dieu, qu'on est simplement là et puis comme des robots qui agissent exactement avec celui qui manipule le joystick. Non. Et ce qu'on fait manifeste des choses qu'il a mis en nous, mais c'est comme personne qu'on les fait et c'est comme personne que Dieu veut nous connaître. individuellement. C'est pour ça que ce qu'on fait est important. Dieu l'apprécie, et l'apprécie et nous l'attribue. Ça, c'est moi comme individu que Dieu aime. C'est Marthe que Dieu aimait spécifiquement parce que Marthe était ce qu'elle était. Et c'est vrai pour chacun de nous. Il n'y a pas de jalousie à avoir. On ne peut pas dire que c'est quand même pas faux de dire que Dieu aime tout le monde de la même manière. Non, c'est faux de dire de la même manière, mais avec la même intensité. Il n'y a pas de jalousie à avoir, mais n'oublions pas qui m'aime, moi, pour ce que je suis, ce que je fais. Jésus est venu pour régler le problème du péché. Jésus est venu pour se faire connaître Dieu. Jésus est venu pour nous connaître. Voilà ce que le fait de Noël, le fait de l'incarnation permet, d'autres choses. J'aimerais terminer par un point un peu différent. J'ai dit qu'il y avait trois points, ça c'est à côté. Il est ressuscité. Jésus a dû venir dans ce monde pour mourir, pour régler la question du péché. Il est venu mourir dans ce monde pour régler la question de la destruction de ce monde, pour que tout ce qui a été fait faux soit comme jugé. Il a apporté le salut. Le salut, c'est quoi? C'est ce que le sang de Jésus, ce que la mort de Jésus, ce que la croix a acquis, c'est quoi? Ben, on est justifié par tout cela. On a la vie éternelle, on a une liberté, on a le pardon, le ciel nous est ouvert. Tout ça, c'est lié au fait que Jésus est mort, le fait qu'il a réglé cette question et que maintenant tout est libre devant nous. Pourquoi il a dû être ressuscité? Si cette mort suffit à régler ces questions, ben Jésus remonte au ciel, il est dans le ciel nous est ouvert, ben ce serait suffisant. Pourquoi il a dû être ressuscité? Ça veut dire quoi? Pourquoi il a dû recevoir de nouveau un corps? Et il a un corps, il est mort, je pense qu'il était au ciel, puisqu'il a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Jésus a dit au brigand qui était à côté de lui. Il y a un côté, il est dans le paradis. Mais il revient, si on peut dire. Ce n'est pas des bons termes. Hein. Et il ressuscite. Il revient vivant comme un corps. Alors, il y a des tas de raisons à ça. Mais ce qui me semble important, c'est de réaliser qu'il redevient un homme. Et un homme complet. Dans Luc 24, Jésus dit, après sa résurrection, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon du miel. Il en prit et il en mangea devant eux. C'est pour montrer, Jésus ressuscité, c'est vraiment un homme. Et un homme qui peut manger, boire, être vu, toucher. Dans cette création, il est là vraiment. Et c'est comme homme qu'il monte dans le ciel. Quand il est ressuscité, revenu un homme physique, ensuite il y a l'ascension, on le voit monter au ciel comme homme. Maintenant, à la droite de Dieu, sur le trône de Dieu, il y a un homme qui est assis. Vous voyez que ça pose un peu des problèmes. Un homme physique qui peut manger, boire, qu'on peut toucher, qui a des cicatrices, assis à la droite du trône de Dieu, qui est esprit. Est-ce qu'il y a une droite de Dieu? Dieu, il remplit tout l'espace, il est au-delà. Il est à la droite de Dieu, il est sur un trône. Est-ce que Dieu qui n'est pas physique est assis sur un trône? C'est purement des images. Et on imagine bien que ces images nous parlent du ciel. Mais tout à coup, il y a un homme physique là-dedans. Ça nous montre une chose, c'est qu'on ne comprend pas. Ça nous dépasse. Mais c'est important. Dieu a voulu, et Jésus est ressuscité, et il est physiquement dans le ciel. Quelles que soient les choses que ça peut vouloir vraiment dire. Pourquoi cela? C'est à cause du plan de Dieu. Dieu, il ne veut pas remplir le ciel d'êtres comme nous, qui sont dans le ciel, remplis d'êtres spirituels sauvés, qui chantent ses louanges, qui sont dans cet état devant Dieu, mystérieux, des esprits avec Dieu, comme des anges. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas de remplir le ciel d'êtres sauvés comme nous. Le plan de Dieu, c'est de remplir la terre, la nouvelle terre, d'êtres physiques comme nous, avec un Dieu physique. on a de la peine à le penser. On sait qu'on sera ressuscité. On sait que Jésus est ressuscité. On sait que ressuscité, ça veut devenir physique. Mais dans notre esprit, à tous, je pense, on voit le ciel, ce qui nous attend, comme quelque chose de spirituel, comme quelque chose de céleste. Eh bien, ce n'est pas le cas. Apocalypse 21 qui nous parle du but. Qu'est-ce que Dieu a fait? Voilà, c'est là qu'il veut arriver. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » La finalité de Dieu, c'est que ce qui est dans le ciel, finalement, descend sur la terre. Il n'y a plus de séparation. Le ciel, en gros, c'est l'habitation de Dieu. Mais cette habitation de Dieu qui est dans le ciel, elle va descendre sur la terre. Dieu va habiter sur la terre dans cette création. Et c'est une création physique. Nous, on est des êtres nés de nouveau. Par la grâce de Dieu, on a reçu une vie nouvelle. Mais on reste les mêmes personnes. On est nés de nouveau, on a une vie nouvelle, une vie de résurrection. Il y a tout un espace qui nous échappe. Mais on reste les mêmes individus avec notre histoire. Tout ce qu'on a vécu a de l'importance. On reste responsable de ce qu'on a vécu. On reste sauvé de tout ce qu'on a vécu. Jésus qui est devenu un homme, ce qu'il a fait reste éternellement. On est les mêmes individus, mais restaurés. Mais c'est la même chose pour la création. Romains 8, où ce passage-là montre que c'est renouvelé. C'est plus la... Je ne sais pas comment dire, pour la création, pour un être humain, on peut bien imaginer que sa personne reste et puis il a quelque chose de nouveau. Mais physiquement nouveau, on aura des corps glorieux. Il est dit que notre corps, maintenant, il est corruptible, mais il ressuscitera incorruptible. Notre corps, maintenant, il est méprisable, il deviendra glorieux. Notre corps, maintenant, il est faible, il ressuscitera plein de force. Il est naturel, il reste animé par la nature, il reste animé par le Saint-Esprit. Vous voyez, on sera changé, nos corps seront changés d'une certaine manière, mais on restera les mêmes. Mais c'est la même chose pour la création. Elle sera renouvelée, elle sera changée, c'est des nouveaux cieux, une nouvelle terre, mais ça reste les cieux, ça reste la terre. Comment ça se passera, je ne vais pas le dire. Est-ce que ce sera tout effacé, puis Dieu refait de nouveau? Franchement, ça ne me semble pas être l'enseignement biblique. J'ai plutôt l'impression que ce qui existe sera transformé d'une façon subtile. Il y aura quelque chose, mais ça restera la nature créée par Dieu. Parce que comme Dieu veut sauver les hommes, il veut sauver sa création. Il ne veut pas la détruire, il veut la sauver. Donc elle sera renouvelée. Oui. Vous comprenez? Tout va changer, mais ça restera une création. Et le but de Dieu, c'est de faire que on habite comme être physique, changé, mais physique, dans une création physique, pas des esprits dans le ciel. Et c'est pour ça que c'est important que Jésus ressuscite. C'est parce qu'il est le précurseur. Il est un homme avec ce corps humain qui peut manger, parce que dans l'éternité, on sera des êtres humains qui peuvent manger, qui peuvent bouger. On a toujours cette impression que les corps, c'est une limite. Alors oui, c'est une limite aujourd'hui, mais en fait, c'est le but de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui veut nous rendre des esprits comme lui, c'est Dieu qui est devenu corporel comme nous. Curieux, hein? C'est évident dans la Bible, mais on a de la peine à se rappeler de cela. C'est pour ça que je voulais le redire. Je trouve que c'est important des fois de redire des choses, parce que je me rends compte que au fond de nous, on a des espèces d'images de la réalité, mais qui sont simplement partielles ou même fausses. L'aspect physique est central. Mais ce qui est central, c'est notre espérance. Et cette espérance, elle est déjà présente maintenant, mais elle le sera beaucoup plus grande. Quelle est notre espérance? Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Ben, c'est d'être, connaître Dieu. Et dans le futur, en Jean 3, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous le sommes. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Maintenant, on connaît Dieu, on est enfant de Dieu. Mais ce qui arrivera dans ce futur, c'est que au lieu d'être quelque chose de spirituel, on connaîtra Dieu, on connaîtra Jésus, on sera avec lui, semblable à lui. On le connaîtra parce qu'on le verra comme il est. Ce ne sera plus comme maintenant, des fois un peu frustrant d'avoir une relation spirituelle avec Dieu. Non, dans tous les domaines de nos vies, dans notre esprit, dans nos affections, dans notre corps, on connaîtra Jésus, on le verra, il sera semblable à nous. Connaître Dieu maintenant par l'esprit, connaître Dieu au travers de ce que Jésus a fait, la connaître Dieu en étant avec lui, relation avec lui, complète. On n'imagine pas ce que c'est, mais Dieu nous veut qu'on le connaisse vraiment, d'une manière, il veut que je connaisse, le connaître, dans un certain sens, un peu comme je peux connaître l'un d'entre vous. Vous voyez, voir, alors, beaucoup plus profond, puisque la connaissance spirituelle existera, ce sera transparent, on le verra comme il est vraiment. Et on habitera, habiter avec Dieu. Ça veut dire être dans ce monde, être avec lui, et travailler avec lui, et être dans son contexte aussi avec lui. Il a dit qu'on règne aussi, mais c'est vrai, on sera là un peu comme avec Jésus qui règne, mais comme des collaborateurs, des ministres, des gens qui... Et ce n'est pas des images. Souvent maintenant, c'est un peu des images. Ce sera une réalité. C'est mystérieux, mais je crois que ça reste, et ça doit rester un peu notre espérance. Concrète, on habitera avec Dieu comme on habite les uns avec les autres maintenant. C'est pas en image, mais en réalité physique. Pourquoi on peut être reconnaissant, et c'est ma conclusion, pourquoi on peut être reconnaissant pour l'incarnation, pour Noël, pour que Jésus soit venu? Alors, à cause du salut, il est venu pour mourir. On peut être reconnaissant parce que Jésus, dans son incarnation et sa mort, il nous a donné tout ce qui nous manque, tous nos manques, notre faiblesse, tout ce qu'on n'est pas, tout ce qu'on rate, tout ceci, il nous le donne, c'est sa grâce, c'est le salut. Il s'est incarné pour nous sauver, pour pouvoir mourir. Et bien ça, c'est un profond sujet de reconnaissance dont on va encore rappeler par la Sainte Cène tout à l'heure. Tu es venu, Seigneur Jésus, tu t'es incarné, tu t'es approché pour me sauver. On peut être reconnaissant parce qu'il est venu s'incarner pour qu'on le connaisse et qu'on connaisse Dieu. Il nous donne à connaître la seule chose qui peut vraiment remplir nos cœurs. C'est là la connaissance de Dieu, la connaissance de lui-même. On ne le recherche pas, on ne s'en rend pas compte, mais foncièrement, ce dont on a besoin, et on ne le cherche pas, on en ressent quelque chose quand même, on le sait quelque chose, mais grandir. Et il nous a donné cette capacité de connaître et d'apprécier Dieu, nous réjouir en Dieu. Si on peut louer vraiment, c'est parce que Jésus s'est incarné et nous a révélé qui est vraiment qui est Dieu. On peut être reconnaissant pour l'incarnation parce que on est ses enfants. Il est venu pour nous connaître chacun et il est entré en relation avec nous jusqu'au fond. Il peut nous représenter devant Dieu, mais plus, il nous aime d'un amour, je peux dire, humain, glorifié, mais un peu comme nous nous aimons. Il y a quelque chose de proche dans l'amour de Jésus, parce qu'il me connaît comme je suis vraiment et qu'il m'apprécie. Et puis une espérance, parce que dans la frustration qu'on vit aujourd'hui, dans les limites de ce monde, ben une fois ce sera fini et ce monde sera nettoyé et il sera exactement comme on aimerait qu'il soit. Et ça, on peut s'en réjouir, même si c'est un peu flou pour nous maintenant. Et j'espère que ce matin, que l'Esprit de Dieu nous rend un peu vivants ces choses. C'est que lui qui peut le faire, parce que ça nous dépasse. Mais Dieu est grand, et ce qu'il veut est grand, et ce que nous sommes est plus grand qu'on le pense. Eh bien, on peut se réjouir pour ça aussi, et dire merci à Dieu qui nous a créés pour nous connaître et pour qu'on le connaisse. Amen.